Bien, donc on va commencer par une petite méditation pour se mettre dans l'ambiance. Donc on pose son attention sur la respiration dans un premier temps. Donc l'avantage quand on se concentre comme ça sur la respiration, c'est qu'on voit petit à petit les pensées qui nous occupaient en fait se détachent un petit peu, se disparaissent, cessent. Et que c'est comme si finalement on avait un verre d'eau sale et puis que petit à petit la terre ou la poussière se décantait et que notre esprit ou retrouver un peu de sa luminosité, de sa pureté, comme vous voulez. Donc essayez de ressentir ça, justement, que toutes les pensées s'apaisent si on ne les retient pas, si on ne fait pas un discours. Et que si, quand ces pensées s'apaisent ou disparaissent, notre esprit, la clarté de notre esprit apparaît. Et on essaie de se relier à ça, à cette clarté, à cette luminosité naturelle de l'esprit, qui est sa vraie nature en fait. Donc si on regarde bien toutes ces perturbations mentales qui apparaissent, qui s'élèvent dans notre esprit, comme la colère, la jalousie, la frustration, le désir, tout ça, en fait ne sont que des événements mentaux, passagers, qui n'entachent pas la pureté fondamentale de notre esprit. Puisqu'il suffit qu'on les laisse passer pour que notre esprit automatiquement redevienne clair et limpide. Donc ça veut dire qu'elles ne font pas partie de la nature de l'esprit. elles nous causent beaucoup de souffrance parce qu'on s'y attache, parce qu'on croit à leur réalité, à leur existence véritable. Mais si on lâche ça, si on relâche cette saisie de leur existence véritable, on voit apparaître ce qu'elles sont, leur véritable nature. Donc elles n'ont en fait que l'existence qu'on leur attribue. Mais en elles-mêmes, elles n'ont aucune existence. Et plus on reste concentré sur cette luminosité de l'esprit, en fait, plus on ressent du bonheur. Donc la souffrance que ces perturbations mentales nous créent, en fait, sont complètement un leurre, une hallucination. Donc chaque fois qu'on a des problèmes, en fait, c'est ça qu'on devrait faire. C'est toujours à notre portée, c'est toujours possible, ça ne coûte rien. C'est juste de s'asseoir et de laisser passer. Et de regarder son esprit. Donc en essence, notre esprit est clair, il est lumineux. Il est capable de connaître toutes choses, de comprendre et de connaître les choses, les phénomènes. Seulement, en général, je suis complètement inconscient de cette réalité de l'esprit. Je suis incapable de demeurer dans cette paix naturelle de l'esprit. Et chaque fois, je me laisse prendre par la saisie d'un « je », d'un « moi » solide, indépendant. C'est ça l'ignorance qui nous propulse comme ça dans le samsara, qui nous fait ressentir de l'attachement, de l'aversion, qui crée des actions contaminées et très souvent des actions nuisibles pour soi et pour les autres. Donc en fait, ces perturbations, ces karmas sont la cause de tous nos problèmes, de tous nos maux, toutes nos souffrances dans le samsara. C'est à cause de ça que je renais toujours, encore et encore, dans le samsara, à cause de ces perturbations qui n'existent pas. Et c'est à cause d'elle que je dois faire l'expérience de toutes ces souffrances, les 8 souffrances, les 6 souffrances, les 3 souffrances. Des souffrances physiques, des souffrances mentales, des expériences agréables ou passagères qui n'ont aucune stabilité, qui ne durent pas. Et d'être toujours à la merci ou sous l'influence d'un corps et d'un esprit contaminés. Qui fait qu'à cause de ça, je suis dépourvu d'un vrai bonheur. Je ne peux pas accéder au vrai bonheur tant que cette ignorance dicte la règle du jeu. Donc, essayer de ressentir qu'on en a assez de cette souffrance créée, de cette souffrance illusoire, créée par une ignorance illusoire, qui crée des perturbations mentales illusoires. Il faut qu'on ressente vraiment un ras-le-bol, qu'on en a assez. Et qu'on va se libérer du samsara. On va se libérer de ce cycle infernal des réincarnations, des morts et des renaissances, dicté par le karma, les perturbations mentales. On essaie de ressentir cette détermination profonde à vouloir se libérer de ce cycle, parce qu'on n'en peut plus. Parce qu'on en a marre. de toujours revivre les mêmes histoires, dans lesquelles on est toujours le principal perdant, finalement. Donc je vais me libérer de l'ignorance, je vais me libérer de l'attachement, je vais me libérer de l'aversion, je vais me libérer du karma contaminé et de toutes les souffrances. C'est ça que je veux. Pas autre chose. Bien. Donc, quand on a ressenti ça, eh bien, ou pour ressentir ça plutôt, eh bien, on continue à méditer sur les souffrances du samsara. Ces souffrances, elles peuvent nous paraître un peu évidentes. Certaines sont plus subtiles, certaines sont plus difficiles à comprendre. Hein. Et avec certaines, on arrive à se relier immédiatement, ça nous paraît vraiment juste. D'autres, ça nous paraît plus distant, on est plus loin de ça. Comme par exemple la souffrance de renaître sans cesse dans le samsara, il est possible qu'on ne le ressente pas, vraiment comme une souffrance. Surtout si on n'a pas vraiment pris conscience de la réincarnation. Si on ne croit pas à la réincarnation, ça ne marche pas. Mais comme je le disais ce matin, l'un des problèmes qu'on a, un problème fondamental qu'on a en Occident, c'est qu'on ne croit pas dans ce concept de bonheur parfait, qu'on appelle la libération. Finalement, on n'y croit pas. On ne pense pas que c'est possible. On a encore l'idée, pour la plupart d'entre nous, que la souffrance est quelque chose qui fait partie de la vie. Et que les perturbations mentales, c'est aussi des choses qui font partie de la vie, et qu'elles sont nécessaires pour être heureux, quoi, en fait. Donc il faut faire avec. C'est comme si on se disait qu'on ne peut pas être heureux sans avoir de souffrance. On a un petit peu ce concept-là, on ne peut pas avoir le bonheur sans avoir de souffrance. Ça vient avec. Et donc là, le concept bouddhiste, c'est qu'en fait, non, c'est pas du tout, c'est complètement faux. Hein, c'est pas nécessaire d'avoir de la souffrance pour pouvoir faire l'expérience du bonheur. On peut avoir un véritable bonheur, un véritable parfait, qui ne dégénère pas, qui reste vraiment stable. Ça, on a du mal à l'y croire. Qu'il est possible d'avoir un bonheur qui ne dégénère pas, qui soit. Parce qu'on est tellement habitué à ce que les choses dégénèrent, déclinent ou se perdent, ou voilà, qu'on est séparés, que finalement on a tellement souffert dans le samsara, dans le cours des vies et des vies, qu'on ne croit pas, comme on n'a jamais été libéré, on ne croit pas qu'un bonheur stable soit possible. Parce qu'on n'a jamais fait l'expérience. Donc c'est pour ça qu'on court toujours après ça, ce dont on n'a jamais fait l'expérience, mais finalement auquel on ne croit pas vraiment non plus. Quelque chose qui soit un vrai bonheur, qui ne dégénère pas, c'est possible que ça n'évoque pas grand-chose pour nous. Ça. Il y en a même qui disent c'est nécessaire d'avoir un peu de souffrance pour mieux apprécier le bonheur. Le bouddhisme dit non, c'est pas nécessaire d'avoir la souffrance pour mieux apprécier le bonheur. On appréciera encore mieux le bonheur si on n'a pas de souffrance. En fait, aussi, le problème principal qu'on a, c'est qu'on est, on pense aussi qu'il nous faut, il faut de l'attachement. S'il n'y a pas d'attachement, ben, il n'y a pas de plaisir, quoi. La vie est fade, elle est ennuyeuse, s'il n'y a pas d'attachement, si on n'est pas attaché aux choses. Ça aussi, c'est une conception complètement erronée qui fait qu'on tourne dans le samsara à cause de ça, en croyant qu'on est attaché finalement à l'attachement. Parce que si on perd l'attachement, on se dit, ben voilà, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Donc voilà, donc il faut aussi apprendre à accepter cette idée, à croire, et à accepter, oui, qu'il y a un bonheur durable possible. Et qu'est-ce qui va nous amener à le croire? C'est pas simplement la foi, comme ça, mais c'est de voir justement, comme dans la méditation qu'on vient de faire, que la nature de notre esprit, c'est pas les perturbations mentales. Que ça, c'est juste des paysages comme ça qui apparaissent. Que la nature de notre esprit, plus on va méditer justement sur la nature de l'esprit, sur notre nature de Bouddha, plus on va voir que cette nature de l'esprit, elle est complètement libre des perturbations mentales. Et plus on va se relier à cette nature de l'esprit, plus on va être heureux, et plus on va voir que les perturbations mentales, c'est juste une farce, quoi. Une farce que l'on se crée parce qu'on est attaché au moi, on est attaché à l'ego. Mais si on médite sur la nature de l'esprit, tout ça, ça tombe, ça disparaît complètement, comme des choses qui décantent. Bon, ça se produit finalement lentement, progressivement. Et plus on va méditer, plus on va comprendre que tout vient de l'intérieur, en fait. Que la joie, le bonheur, tout ça, c'est de l'intérieur. Et que l'extérieur, en fait, bof, c'est juste des événements comme ça qui passent, mais qui n'ont pas grande valeur, en fait. Hein, qui sont déclenchés par nos karmas et tout ça. Mais que le véritable bonheur, il est vraiment à l'intérieur. Et ça va devenir de plus en plus... on va le comprendre de mieux en mieux, ça. Et on va le toucher, en fait de mieux en mieux, grâce à la méditation. Voilà, donc ça c'est une méditation aussi donc, qu'on peut faire, méditer sur la nature de l'esprit pour qui a un parallèle en fait, donc à méditer aussi sur les souffrances. Donc on avait vu donc les 8 souffrances, ce matin on va voir les 6 souffrances maintenant. Les 6 souffrances, alors la première des souffrances, qui sont donc les souffrances générales du samsara, c'est la souffrance de l'incertitude, la première. La souffrance de l'incertitude. Ouais. C'est-à-dire que tous les plaisirs qu'on peut avoir dans le samsara ne durent pas. En fait, c'est ça que ça veut dire, la souffrance de l'incertitude. On ne peut établir aucune certitude sur ce que l'on acquiert dans le samsara. Ça peut durer comme ça peut ne pas durer du tout. C'est quelque chose donc de très fugace. Ça, c'est aussi valable pour cette vie, pour les vies futures. Donc, dans cette vie, dans les vies futures, rien ne dure. Donc, pourquoi courir après un bonheur dans cette vie? Puisque de toute façon, on n'a aucune garantie que ce bonheur va être durable. Et en fait, c'est ça qu'on fait. On court après des bonheurs qui ne durent pas. Et que la seule chose finalement qui est certaine dans le samsara, c'est la mort. C'est la seule chose qui est certaine d'arriver. Tout le reste, on n'a aucune garantie, aucune certitude que ça peut arriver. On aimerait que ça arrive, certaines choses, on aimerait, voilà, ceci. Mais... rien ne nous le garantit, on ne sait pas. Tout va dépendre de si on a les conditions favorables pour ça ou si on ne les a pas. Et souvent, le simple fait de penser, de vouloir quelque chose, parfois c'est peine perdue. On essaie, on va faire des efforts pour l'obtenir, on ne l'obtiendra jamais. Donc c'est ça l'incertitude. C'est que même si on acquiert quelque chose, on n'est pas sûr que ça va durer, on n'est pas sûr de pouvoir le garder. Ça, c'est un autre aspect de la souffrance de l'incertitude, c'est le fait que les relations sont incertaines dans le samsara. Ce n'est pas parce qu'on est ami avec quelqu'un aujourd'hui que cet ami nous apparaît comme la personne la plus chère, la plus adorable possible, que cette relation va durer toujours. Et souvent, on a même l'expérience que ça ne dure pas, en fait. Que quelqu'un qu'on a beaucoup aimé à une époque, eh bien, soit on peut très bien l'oublier quelques années plus tard. Une personne à laquelle on était très attaché il y a 5 ans peut passer complètement dans l'oubli, plus tard, 10 ans après, on ne se souvient même plus. Alors qu'on était extrêmement attaché à cette personne, maintenant, on n'a plus aucune idée de là où elle est, où est-ce qu'elle vit. Alors qu'à l'époque, il nous semblait que cette personne était indispensable pour nous, à notre vie, qu'on ne pourrait absolument pas s'en passer, que c'était la chose la plus indispensable qu'on puisse avoir. Si on regarde en arrière, il y a eu beaucoup de gens comme ça, auxquels on était très attachés, et puis finalement, dont on a perdu la trace. Donc, parfois, les amis deviennent des ennemis. Il suffit qu'un ami nous dise quelque chose de désagréable, quelque chose qui ne nous plaît pas, ça devient un sujet de dispute, quelque chose qui nous a heurté, qui a touché notre moi profond. Là, et tout de suite, on est cette personne devient pas forcément un ennemi juré quand on dit un ennemi, c'est-à-dire, mais quelqu'un contre lequel, tout d'un coup, alors qu'on aimait beaucoup cette personne, et bien, tout d'un coup, on a une certaine animosité. Elle n'est plus aussi attrayante pour nous qu'elle l'était. Et parfois, c'est le contraire. Parfois, c'est un ennemi qui devient un ami. Ça, c'est bien que ça se produise comme ça. Des gens qu'on n'aimait pas, et puis finalement, pourquoi ils deviennent des amis ? Ben, parce qu'ils font quelque chose qui nous est agréable. En général, c'est toujours centré autour de nous, hein, de toute façon. Dans les deux cas, quand on perd les amis, c'est parce qu'ils nous ont dit quelque chose qu'on n'aimait pas. Et quand on acquiert des amis, c'est parce que cette personne qu'on n'aimait pas, finalement, elle a dit des choses intéressantes sur nous, des éloges, ou je sais pas, elle a vu nos qualités. Et tout d'un coup, hop, il y a un rapprochement qui se fait. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Il suffit qu'après, cette personne... Et ça, on peut le voir. Surtout quand on vit en milieu fermé, on va voir que parfois, on est ami avec une personne et que parfois, 2 mois après, on n'est plus du tout ami avec elle, on est ami avec une autre. Et cette personne, on va même dire du mal d'elle à l'autre. Enfin, bon, ce genre de choses, quoi. Donc tout ça, c'est complètement incertain. Il n'y a rien de certain. Et ça me fait penser à une histoire. Vous avez peut-être lu cette Shariputra, le fameux Shariputra du Sutra du cœur, le Bouddha, enfin, je sais pas, il se promenait dans la campagne il va dans une maison et il voit un homme qui mangeait un poisson et il y avait un chien dans la maison et il mangeait un plat avec du poisson et puis sur ses genoux il avait son enfant et qui donnait à manger. Et dans sa clairvoyance, Shariputra a vu en fait que tout ça dans des vies antérieures. C'était d'autres types de relations. Par exemple, le poisson qu'il était en train de manger, qu'il avait dans son assiette, en fait, c'était la réincarnation de son père, qui était pêcheur, qui allait à la pêche, qui aimait beaucoup aller à la pêche, qui attrapait du poisson. Et son père, quand il est mort, il s'est réincarné en poisson. Et le fils était en train de manger, en fait, son père. Après, il y a toute une histoire comme ça. Après, c'est marrant parce que le chien voulait attraper le poisson voulait manger du poisson qui était dans l'assiette. Et le gars donne un coup de pied au chien. Et Shariputra, il voit ça, il dit, mais ce chien, en fait, c'était sa mère dans une vie antérieure. Parce que sa mère était extrêmement attachée à sa maison. Elle a pris une incarnation comme un chien qui garde la maison, justement. Et donc, voilà. Et donc, il était en train de frapper le chien qui avait été sa mère dans la vie antérieure. Et l'enfant qu'il avait sur les genoux, en fait, c'était son pire ennemi dans la vie antérieure. C'était un gars qui avait voulu violer sa femme, parce qu'il était très attaché à la femme de ce gars-là. Il avait voulu la violer et il l'avait surpris et il l'avait tué. Et l'autre, il était mort et il s'était réincarné comme son fils. Alors, Shariputra, il voit ça, il dit, il mange son père, il frappe sa mère et sur ses genoux, il fait sauter son pire ennemi. Le samsara est vraiment une farce. Donc quand on a un peu de clairvoyance, on peut voir tout ça. Hein, si Rajputra avait des pouvoirs de clairvoyance, il pouvait voir les vies antérieures. Et vous voyez tout ce tissu de relations qui est complètement incertain, où il n'y a rien de fixe. On ne sait pas qui est qui, finalement. Donc ça, c'est la souffrance de l'incertitude. Bon, et puis on a tous l'incertitude aussi par rapport à son travail, hein, bien sûr, par rapport à son emploi. Pour l'instant, on a un travail où on l'a perdu. On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas si on va en retrouver, on ne sait pas combien de temps on va garder cet emploi. Il y a une grande donc, incertitude à tous les niveaux, au niveau de nos activités, au niveau de nos relations sociales, professionnelles, tout ça, amicales, etc. Donc ça, si on regarde bien, c'est une souffrance, parce qu'on peut, finalement, on peut se raccrocher à rien dans le samsara. Tout dépend de ce qui se passe dans notre esprit. Nos perturbations mentales peuvent s'élever d'une manière très forte. Et les gens sur qui on les projette, ces perturbations mentales, on ne sait pas trop qui c'est, quoi, en fait. Non pas l'étiquette ami ou l'étiquette ennemi ou l'étiquette neutre, indifférent. Ce sont des étiquettes qui sont très, très fluctuantes. On les met comme ça pendant un certain temps sur cette personne parce que c'est notre esprit qui projette des qualités. Puis on met l'étiquette ennemi sur une autre personne pendant un certain temps, parce qu'à ce moment-là, notre esprit projette sur cette personne des défauts, puis sur une autre personne qui ne nous intéresse pas du tout, qu'on n'a même pas remarqué, eh bien, on projette des qualités, même, on projette rien du tout, en fait. On est complètement indifférent. Et ça peut changer. Quelqu'un d'indifférent va devenir un ami ou un ennemi. En général, quelqu'un qui est devenu notre ami, il était dans la catégorie des indifférents à une époque. On ne le connaissait même pas. Donc il est apparu comme ça, puis il est devenu ami, et puis très bien retourné dans la catégorie des gens indifférents. Ouais. Quelqu'un qui sort de la foule, comme ça, tout d'un coup, qui devient un ami ou qui devient un ennemi, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est intéressant, regardez, comment notre esprit fabrique ces catégories. Donc ça, c'est le samsara, justement, cette incertitude, cette souffrance de l'incertitude. Deuxième souffrance, donc parmi les six, donc dans cette catégorie-là, c'est la souffrance de l'insatisfaction. Justement, ça me fait penser que j'aurais dû déjà vous le dire dans le premier jour, hier, puis j'ai oublié. Le mot « souffrance » n'est pas une très bonne traduction encore du mot « dukkha » en sanskrit. Ce qu'on traduit par souffrance. Le mot sanskrit dukkha, parce que nous, quand on parle de souffrance, tout de suite, on pense à quelque chose d'évident, quoi. Une souffrance, c'est quelque chose qu'on ressent tout de suite, que ce soit mentalement ou physiquement. On a une sensation de souffrance. Le terme dukkha n'implique pas forcément qu'on ait la sensation de la souffrance. Okay ? C'est là où c'est beaucoup plus subtil. Donc je pense que le mot insatisfaction, est beaucoup plus proche que le terme de souffrance. Nous, dans souffrance, c'est vraiment quelque chose d'immédiat, quelque chose qu'on ressent, quelque chose qu'on vit tout de suite, tout d'une manière immédiate. Ça, c'est ce qu'on appellera plus tôt, qu'on verra tout à l'heure dans les trois souffrances, la souffrance de la souffrance, ou la souffrance de souffrir, hein, on peut dire. Donc, la souffrance la plus forte, disons dans le samsara, la plus évidente, c'est justement cette souffrance d'insatisfaction où on n'est jamais vraiment satisfait, en fait. Quand on a quelque chose, on est satisfait pendant combien de temps ? Pas très longtemps, en fait. Il suffit qu'on nous montre, qu'on voit des défauts dans cette chose pour qu'on en veuille une plus perfectionnée. Et toute la société de consommation, elle est fondée un peu là-dessus, quoi. Nous faire voir à un certain moment les qualités d'une chose pour 2 mois plus tard montrer que cette chose elle est désuète et qu'il faut la remplacer par une autre qui est beaucoup plus performante, qui est plus qui a plus de mémoire, qui a plus qui est plus compacte, qui est plus petite, qui est plus belle, qui est plus ou moins suivant les modes et suivant les intérêts des gens. Voilà. Et c'est assez intéressant de voir comment en fait finalement cette insatisfaction naît à partir du moment où on est sensible justement à la société de consommation Et donc c'est une grande qualité en fait, qui fait partie justement des qualités qu'on prône dans le bouddhisme, justement la satisfaction, être satisfait de ce que l'on a, justement, sans chercher vraiment toujours à vouloir plus. Donc ça, c'est un peu le syndrome de l'eau salée. Hein. C'est-à-dire si on a soif, ben, on va chercher de l'eau pour boire. Seulement, si cette eau, elle est salée, ben, ça va nous donner encore plus soif. Hein. Donc c'est un petit peu ça qui se passe. Dans notre soif, on a une soif insatiable, mais dans cette soif insatiable, on essaie de la satisfaire en buvant de l'eau salée, quoi. C'est ça le samsara. C'est on est constamment en train de boire de l'eau salée et donc on a toujours soif. C'est ça que veut dire la souffrance de l'insatisfaction. On est insatisfait, voilà. Mais au lieu de dire bon ben voilà, on est insatisfait, regardez pourquoi, et ne pas tomber dans cette insatisfaction, eh bien on a tellement soif que c'est qu'on boit ce qu'il ne faut pas boire. Quoi. Et ça fait partie justement des causes principales qui nous font renaître dans le samsara. Cette soif. C'est ça qui au moment de la mort, va vouloir nous faire reprendre une réincarnation, une vie dans le samsara. Donc bien sûr, tout ça, c'est alimenté par la société de consommation, ça c'est sûr, mais on n'est pas obligé non plus de céder à ça. Donc ça, c'est la deuxième souffrance, la souffrance de l'insatisfaction. Cette lutte constante pour obtenir ce qu'il y a de mieux. On veut toujours obtenir ce qu'il y a de mieux. Et on pense qu'on va être satisfait si on a un peu d'argent, on a, disons, je ne sais pas moi, 10 000 euros à la banque, pendant un certain temps, on est satisfait. Puis finalement, on se dit, ben, j'aimerais bien avoir 20 000 euros, quoi, quand même, pourquoi pas. Ça me permettrait d'avoir ceci et de cela. Mais 20 000 euros, après, ça ne sera pas suffisant. Il nous en faudra 30 000 ou peut-être 100 000 pour acheter un appartement. Puis quand on aura l'appartement, ben, finalement, cet appartement-là, il coûte un peu plus. 150 000, ben, il nous faut encore un peu plus. Et c'est sans fin, comme ça. Hein? Donc on ne peut pas être... C'est pas parce qu'on se dit qu'on va atteindre cette somme d'argent, par exemple, et puis là, on va s'arrêter, on va être satisfait. Non? Les riches, il y a des riches qui sont complètement insatisfaits. Et il y a des pauvres qui sont complètement satisfaits. Hein? C'est pas parce qu'on est riche qu'on est... La richesse n'apporte pas la satisfaction. Au contraire, elle entretient justement l'insatisfaction. Bon, aussi, il y a aussi des pauvres qui sont insatisfaits, évidemment. Et donc le renoncement, ça ne veut pas dire non plus justement être pauvre. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faille aller dans une grotte, qu'il faille se vivre uniquement dans la pauvreté et tout ça. Ça, c'est pas le renoncement bouddhiste de vouloir de prôner absolument la pauvreté, d'être justement la satisfaction. Ça ne veut pas dire être pauvre, ça veut dire justement ne pas céder à ce chantage permanent d'obtenir toujours ce qu'il y a de mieux. Et donc on peut être riche sans attachement, hein, ou on peut être pauvre avec beaucoup d'attachement. Ça, c'est complètement, ça dépend complètement de l'esprit. Donc renoncer, ça ne veut pas dire donc justement se débarrasser de tout pour être pauvre. Parce que si vous n'avez pas réglé votre attachement, vous allez être pauvre, mais vous n'aurez qu'une envie, c'est d'avoir un peu plus de ceci, un peu plus de cela, un peu plus de ceci. Donc malgré cette pauvreté, finalement, elle ne vous servira à rien du tout. Donc il vaut mieux être riche et satisfait, et avec ses richesses, et aider les autres à construire des maisons, des hôpitaux, des écoles, et tout ça, faire profiter de cette richesse pour aider les autres sans attachement. Voilà. C'est pas parce qu'on est riche qu'on est forcément attaché à sa richesse. Et c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est forcément détaché de tout. Ouais. Donc ensuite, c'est la deuxième souffrance. Ouais. La souffrance de devoir quitter son corps. C'est-à-dire que ce corps que l'on a maintenant, à un moment donné, il va falloir le quitter. Et on est tellement habitué à ce corps que c'est dur, que ça crée une souffrance, de devoir le quitter. Oui, ça rejoint aussi des souffrances qui sont dans les 8. Hein. On les retrouve un petit peu, dit d'une autre manière, où on avait vu ça. Hein. Donc la souffrance de, la souffrance de mourir, oui, c'est ça. De devoir quitter son corps. C'est un peu la même chose. Mais là, ça insiste plus sur le côté de ce corps qui nous est vraiment familier, hein, qui nous est vraiment, qui est vraiment proche de nous. C'est une souffrance de devoir quitter un corps auquel on s'est habitué pour en reprendre un autre qu'on ignore complètement, qu'on ne sait pas du tout lequel. On s'est habitué à ce corps, mais avec ses perfections et ses imperfections, et il est familier, maintenant on y est habitué. Mais on sait pas, il va falloir quitter ce corps et en prendre un nouveau. On ne sait pas lequel. Ça peut être un corps animal, ça peut être un corps, je ne sais pas, on ne sait pas du tout. Un corps dans lequel on se sentira peut-être moins bien que dans celui-là, ou mieux. Et ça, on a fait ça pendant des vies et des vies. Hein. Ce n'est pas uniquement dans cette vie, c'est dans les vies antérieures aussi, on a dû abandonner sans cesse notre corps. C'est ça le samsara. Donc si on continue, si on ne renonce pas au samsara, eh ben, on va devoir continuer comme ça, à vouloir reprendre des corps. Encore et encore. La quatrième, c'est la souffrance de renaître, pareil. Donc c'est lié un petit peu à ça, puisqu'on quitte son corps et on doit forcément renaître. Avec repasser par toutes les phases de la naissance, de la vieille, de l'adolescence, etc., de tous les problèmes qu'on a rencontrés. Déjà, si on pense à cette vie, déjà, il y aurait des choses qu'on aurait bien évité de vivre, peut-être. Hein. Je sais pas, j'ai rien de précis en tête, mais peut-être il y a des choses qu'on a faites, des erreurs ou ça qu'on aurait bien aimé ne pas faire, peut-être. Renaître, ça veut dire recommencer à grandir, à évoluer, à aller à l'école, à ceci, à avoir des parents, à avoir des relations, à avoir des problèmes, enfin tout un tas de trucs encore qui sont attachés au fait de renaître, quoi, au fait de la naissance. On va devoir subir toutes sortes encore d'histoires avec un tel, avec une personne, peut-être des problèmes avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos enfants, et recommencer, recommencer, recommencer. Donc ça, c'est une... Quand on réfléchit à ça, donc ça fait apparaître donc, cette souffrance du samsara. Cinquième souffrance, la souffrance dans le samsara de s'élever et de retomber. Hein. C'est-à-dire, si on va s'élever dans le samsara, mais si on s'élève, on va forcément retomber. Hein. Et il y a toujours ces mouvements, un peu comme ils disent qu'on a... Comme les plateaux d'une balance. De temps en temps, ça monte, de temps en temps, ça descend. C'est comme un ascenseur. C'est pas parce qu'on est en haut de l'échelle sociale ou en haut de ce qu'on veut, qu'on va y rester tout le temps. Quand on regarde les journaux, quand on regarde l'actualité, on voit que des gens qui étaient très haut placés se sont retrouvés au bord de la société. Et inversement, des gens qui étaient pauvres montrent à la... Voilà, c'est un peu le rêve américain. Quand on est pauvre, on va aux États-Unis pour s'enrichir, on devient très riche, puis après, il y a un crash boursier, on perd tout. Voilà. Ça, c'est la souffrance de s'élever, de retomber. Hein. On ne sait jamais. On peut s'élever à un moment donné. On peut être très admiré par les gens, dans la société. On peut avoir beaucoup d'éloges. Les gens peuvent faire notre éloge et nous mettre sur un piédestal. Et puis, on ne sait pas. Après, il se passe quelque chose. On fait un AVC ou on perd son argent, on perd n'importe quoi. On se retrouve sans plus aucun ami, complètement délaissé, complètement seul et critiqué par tous. Donc ça fait partie du samsara, justement. Que si on s'élève, on devra forcément retomber. Ce qui est accumulé, ce qu'on accumule, sera dispersé. On ne pourra pas le garder. Hein? Qui dit accumulation, dit aussi dispersion. On ne peut pas toujours accumuler. Ce qui est accumulé à grande peine, par grands efforts, sera forcément dispersé. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera au moment de la mort, de toute façon. Toutes les richesses que l'on a acquises, que l'on a accumulées, on devra les abandonner. Soit dans cette vie, soit au moment de la mort. Donc tout ça, que ça sert. Les rencontres aussi, toute rencontre finit par la séparation. Donc tout ce qui est accumulé finit par être dispersé. Je crois qu'il y a une chanson de Mila, un chant de Mila Repa. Tout ce qui est accumulé finit par être dispersé. Tout ce qui est toute rencontre finit dans la séparation, finit par la séparation. Toute vie finit par la mort. Quelque chose comme ça. Ou alors c'est Gampopa, je ne sais plus. Ouais. Toute union finit par la séparation, ouais, un truc comme ça. Je ne sais plus. J'ai un peu... Je sais plus où c'est. Bon, peu importe. Donc ça, c'est la cinquième souffrance, de voir que tout doit se... Tout se disperse, tout finit comme ça. Donc là, on peut justement, on a de quoi méditer, hein. On n'a qu'à, soit pas sur nous-mêmes, soit sur ce qu'on peut entendre, sur ce qu'on connaît. Et ça, c'est inévitable. Tout ce qu'on dit là, c'est dans le samsara, c'est inévitable. Ça se produit comme ça. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Si on est dans le samsara, c'est inévitable. On ne peut pas éviter ça. C'est une règle, c'est une loi naturelle, enfin naturelle. C'est une loi samsarique, on va dire. Hein. Dans le samsara, c'est comme ça que ça se passe. C'est une règle. C'est des vérités, hein, des qu'ont vu les vérités des Aryas. La dernière, et non la moindre, en fait, qui est très juste aussi, c'est la souffrance de la solitude. Que dans le samsara, finalement, si on regarde bien, on peut avoir l'impression qu'on a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, tout ça, qu'on connaît bien plein de monde, qu'on a un bon carnet d'adresses avec plein de numéros. Et que voilà, qu'il y a plein d'amis, qu'on n'est pas seul. Mais si on regarde bien, toutes nos expériences, en fait, on les vit complètement seul. Personne d'autre ne peut les partager. Quand on est heureux, quand on ressent vraiment un grand bonheur, on peut penser qu'on le partage avec quelqu'un. On dit ça, on dit « je vais partager mon bonheur », on partage sa vie. Mais on ne partage pas grand-chose, en fait. Les personnes ne peuvent pas ressentir ce qu'on ressent. Personne, ce qu'on ressent vraiment. Et surtout, en plus, quand on est... quand on est un peu démuni, quand on a des problèmes, on est seul à les vivre, en fait. Les gens peuvent être là pour nous aider, un peu pour nous soulager. Si on a des amis, c'est un peu leur rôle, on va dire, où ils nous aident en cela. Mais si on regarde bien, toutes les expériences que l'on fait, depuis la naissance jusqu'à la mort, en fait, hein, on est vraiment seul. Hein. Et on peut avoir des secours comme ça, temporaires, mais au fond, comme on dit, le seul secours, ce qui est la seule chose qui nous aide au moment de la mort, c'est le dharma. Tout le reste, c'est complètement vain. Il n'y a pas vraiment de secours qu'on peut nous apporter, puisque l'expérience, on doit la vivre seul. Comme quand on est malade, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre notre maladie sur lui, ou sur elle. Il peut sympathiser... peut avoir de la voilà avec notre comment avoir de l'empathie pour nous, de la compassion, ça peut nous soulager un petit peu moralement, bien sûr, ça peut nous faire du bien, mais ça nous prend pas là, ça n'enlève pas la souffrance que l'on ressent quand on a une grande souffrance, mais on doit la vivre, on est forcé de la vivre. Donc voilà les six souffrances. Attends, alors voilà, il y a une petite juste pour on m'a dit justement d'éviter de répondre aux questions comme ça dans l'assemblée, parce que les gens qui écoutent en replay, après, ça leur coupe leur méditation ou leur concentration, et ça les perturbe un peu. Donc il vaut mieux qu'on ait une plage spécifique pour les questions, comme ça, à ce moment-là, les gens qui veulent après sauter les questions peuvent avancer. S'il y a toujours des questions qui sont posées à droite à gauche, on ne sait plus où on en est. Et on se disperse un petit peu. Donc j'aimerais un petit peu avancer, mais voilà. Je voudrais en parler maintenant des trois souffrances. Ouais, des trois souffrances. Les trois souffrances. Donc ça, c'est une bonne, très bonne méditation aussi que l'on peut faire, que l'on doit faire. Méditer sur ces trois types de souffrances. Ce qu'on appelle la souffrance de la souffrance, peut-être pas une bonne traduction encore. En anglais, en tibétain, c'est le traduit littéralement Dogyal qui Dogyal, c'est-à-dire la souffrance de la souffrance, ou la souffrance de souffrir, en fait. De souffrir, mais vraiment au sens occidental. De ressentir la souffrance. C'est ça la première. Hein. La souffrance, de ressentir la souffrance. De ressentir de la souffrance. Donc la sensation, c'est une sensation de souffrance. C'est une sensation de souffrance. Donc là, on ne se trompe pas. Hein. C'est une douleur, c'est quelque chose de fort qui nous fait souffrir mentalement ou physiquement. Ça, c'est le premier type. Souffrance très grossière que tout le monde ressent dans le samsara et que tout le monde perçoit. Hein. Tout le monde perçoit la souffrance de la souffrance. Même les animaux, ils souffrent physiquement. Hein. Et ça, ils en sont conscients. Hein. C'est quelque chose qui est facile à être conscient. Donc quand le Bouddha nous dit « prenez conscience de la souffrance », ce n'est pas de ça dont il parle. Parce que ça, on n'a pas besoin que le Bouddha nous le dise. Il suffit de regarder, on le ressent immédiatement. On n'a pas besoin qu'on nous dise d'en faire l'expérience. Ça vient tout seul. La deuxième souffrance, un peu plus subtile, c'est la souffrance du changement. Après, on va expliquer tout ça. C'est important de bien les ressentir et de les ressentir au quotidien, surtout. La souffrance du changement. Alors là, c'est pernicieux parce que ce n'est pas une sensation de souffrance. Au contraire, c'est une sensation de plaisir. C'est une sensation agréable. La souffrance, c'est clairement une sensation désagréable. La souffrance du changement, c'est une sensation agréable. Oh, formidable. Tout d'un coup, on est libéré d'une souffrance et on ressent un soulagement. Donc, il y a une sensation de plaisir. Et le Bouddha montre que ça, c'est déjà plus difficile à percevoir. Mais ce n'est pas impossible. On peut le percevoir, si on est suffisamment attentif, que le changement, en fait, que la souffrance du changement, que ce plaisir qu'on ressent, en fait, c'est simplement un instant de plaisir qui va petit à petit se transformer en souffrance. Donc ce n'est pas vraiment du plaisir. C'est de la souffrance déguisée, en fait. On va voir ça. Donc, et la troisième, c'est la souffrance omniprésente. Donc ça, seuls les aryas, les êtres qui ont un bon niveau de réalisation, peuvent percevoir. La souffrance omniprésente, ça veut dire que la souffrance est omniprésente dans le samsara. Donc ça, c'est lié à nos agrégats. Hein. Donc ça, c'est la plus subtile. Donc quand le Bouddha nous dit « soyez attentifs à la souffrance », qu'est-ce qu'il dit le Bouddha ? Le Bouddha dit que dukkha, bon, là ils ne l'ont pas traduit justement, ils l'ont bien fait, la véritable souffrance doit être connue. Hein. Et donc, c'est un livre du Dalai Lama justement qui dit ça. Il dit que quand le Bouddha nous dit que la souffrance doit être connue, doit être reconnue, le Bouddha nous donne un message très important, dit le Dalai Lama. Quand il dit connaître la souffrance, ça veut pas dire simplement connaître la souffrance de la souffrance, ni même connaître la souffrance du changement un peu, mais surtout prendre conscience de la souffrance omniprésente. Et donc, le Dalai Lama dit, tant que nous n'avons pas identifié les circonstances insatisfaisantes qui nous affligent, nous n'allons jamais essayer de nous en libérer. Si nous ne savons pas que nous sommes malades ou que nous nions le fait que nous sommes malades, nous n'allons pas aller voir le docteur et nous n'allons certainement pas prendre de médicaments. Et pendant ce temps-là, la maladie nous enveloppe. La maladie insidieuse va pourrir à l'intérieur de nous. Donc il faut vite aller chez le docteur. Hein. En gros, c'est difficile pour le Bouddha finalement. Je suis en train de penser à ça. Il a le mauvais rôle là-dedans. Son rôle, c'est de vous dire, on n'a pas l'impression. En général, on n'a pas l'impression de souffrir. Et il nous dit, en fait, vous souffrez. Il nous fait prendre conscience de notre souffrance, hein, alors qu'on le nie, alors qu'on fait tout pour la nier. Et il nous dit, bah, non, 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 regardez bien, en fait, c'est ça, il faut reconnaître la souffrance. Vous devez vraiment la reconnaître, vous devez la voir. C'est comme si un médecin vous dit, en fait, à l'intérieur de toi, tu es infesté par un virus qui ne s'est pas encore manifesté. Il est dans ton corps, tu as le virus, hein, ce que vous voulez, il y en a eu plein, là, et il est dedans, mais il n'est pas encore manifesté, tu ne le vois pas, mais il est en toi, je le vois. Vous allez dire, ok. Mais si vous acceptez ça, à partir du moment, là vous allez voir, ça va éveiller quelque chose en vous, et vous dites, bah, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il y a... Comment est-ce que je peux voir ce virus? Et vous allez voir, vous allez commencer à ressentir des manifestations, et ça va être la vérité de l'origine de la souffrance. Et après, à ce moment-là, le médecin va vous dire, bon, mais maintenant, je connais un remède contre cela, et je vais te guérir de cela. Mais il faut d'abord que tu vois cette souffrance, et que tu vois quels sont ses symptômes, comment elle se manifeste, etc. Donc le rôle du Bouddha, en fait, c'est ça, c'est de nous montrer quelque chose qu'on ne veut pas reconnaître, en fait, qu'on ne veut pas voir, et qui est en nous. Et c'est ce que nous dit le Dalai Lama. Si on ne va pas voir le médecin, donc on ne va pas prendre le médicament, et pendant ce temps-là, ben, la souffrance va être là, et à un moment donné, elle va se manifester, forcément. Donc, première souffrance, la souffrance de la souffrance. Donc, quand je vous disais que tout le monde peut la voir, même les animaux peuvent la comprendre, c'est quelque chose de désagréable, d'indésirable, et que voilà, qu'on essaye de vraiment d'éviter et qui doit être évité. On n'est pas maso, hein, on ne veut pas se faire souffrir pour se faire souffrir, pour voir la souffrance. C'est pas du tout le but du jeu de l'enseignement du Bouddha, de nous plonger de manière masochiste dans la souffrance pour que nous en fassions l'expérience. Donc, cette souffrance, cette douleur, si on peut l'éviter, il faut l'éviter. C'est le principe même de la médecine, hein, donc, de nous aider à éviter toutes ces souffrances. Donc ça ne veut pas dire que si on a mal aux dents, ben, il faut essayer quand même de guérir de ce mal aux dents. Hein, c'est pas, voilà. Et donc pour ça, il n'y a pas besoin vraiment de beaucoup d'explications, des explications très approfondies pour comprendre ce type de souffrance. Hein, voilà. Et pareil, pour l'éviter, cette souffrance, il n'y a pas besoin non plus de grandes explications. Hein. Tout le monde connaît des moyens pour éviter ces souffrances, même si ces moyens ne réussissent pas toujours. En tout cas, nous avons des moyens pour éviter de souffrir. On a voilà, toutes sortes de moyens. Donc ça, de toute façon, déjà, c'est la chose évidente pour nous, c'est que quand nous avons une souffrance grossière, on cherche immédiatement à en être libre de cette souffrance, à la guérir. Donc, quand le Bouddha dit que la souffrance doit être comprise, il est clair que ce n'est pas de ce niveau de souffrance dont il veut parler. Hein. C'est un niveau de souffrance qui est extrêmement simple. La douleur physique, mentale, tout ça, c'est simple à reconnaître et relativement facile à solutionner. Hein. La médecine a fait suffisamment de progrès pour nous éviter pas mal de souffrances. Donc... Pour éviter ce genre de souffrance, c'est pas nécessaire d'avoir une spiritualité. Hein, c'est pas nécessaire de rechercher un remède dans la spiritualité ou non. C'est pas nécessaire. Elle peut simplement être éradiquée ou évitée par des méthodes habiles, des moyens qui nécessitent une compréhension ordinaire. En fait, donc, quand le Bouddha dit qu'il faut reconnaître la souffrance, c'est des niveaux les plus profonds dont il s'agit, dont le deuxième, la souffrance du changement. Et donc ça, c'est déjà quelque chose de plus difficile à reconnaître. Ce niveau de compréhension de la souffrance, et surtout de chercher une méthode pour l'éviter, voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus subtil. Pour l'expliquer, on pourrait prendre une analogie suivante. Par exemple, disons que, pour illustrer ces trois types de souffrances, disons que vous êtes brûlé, par exemple, vous êtes brûlé. Au moment où vous vous brûlez, il y a une souffrance, la souffrance de la brûlure. Cette souffrance de la brûlure, elle est évidente, elle est grossière, et vous allez essayer d'y remédier tout de suite, parce que c'est tellement évident. Pour y remédier, vous allez mettre une pommade, disons. Qui va soulager la blessure. Et ça va soulager la blessure, et vous n'allez plus avoir cette sensation de souffrance de la blessure. Vous allez avoir une sensation agréable qui est due, c'est ce qu'on appelle la souffrance du changement, qui est créée par l'application d'un remède qui vous est propre, que vous allez appliquer pour éliminer cette souffrance. Comme le fait d'être assis trop longtemps, et bien vous allez avoir envie d'aller vous dégourdir les jambes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la souffrance du changement. À partir du où, si vous êtes sur la plage, vous êtes bien, vous arrivez sur une plage, vous n'avez qu'une envie au début, c'est de vous allonger au soleil, là c'est formidable. Et au bout d'un moment, ben vous allez avoir trop chaud. Et vous allez vouloir vous mettre à l'ombre. Et bien, donc au début, le fait d'avoir, de se sentir bien, eh bien, ça provoque une sensation agréable. Cette sensation agréable, à un moment donné, elle va se transformer en une sensation désagréable. C'est-à-dire que la souffrance, le plaisir d'avoir chaud et d'être bien au soleil va se transformer en ce plaisir va se transformer en une souffrance d'avoir trop chaud. Et à ce moment-là, vous allez chercher un remède à cette souffrance et vous allez vous mettre à l'ombre dans un endroit frais. Et le moment où vous arrivez dans l'endroit frais, vous vous sentez bien. La souffrance de la chaleur a disparu. Elle est remplacée par le plaisir du froid. Mais ce froid va se transformer, cette sensation agréable de froid va petit à petit, au deuxième instant, elle va commencer à devenir une sensation désagréable qui va devenir trop désagréable. Et vous allez vouloir vous retourner au soleil pour avoir chaud. Et c'est ça ce qu'on appelle la souffrance du changement. C'est-à-dire qu'une situation, elle n'est jamais... un plaisir que l'on ressent à un moment donné n'est pas un véritable plaisir puisqu'il se transforme fondamentalement en souffrance. Voilà, donc ça on peut l'observer. On peut l'observer au quotidien, on peut l'observer dans notre vie. Hein. Chaque fois que l'on a quelque chose, ça nous provoque un sentiment on a un certain plaisir, mais ce plaisir n'est pas un véritable plaisir. Voilà. Donc, on peut voir finalement que quand les choses changent, il y a une sensation soit de plaisir, soit de souffrance qui se met en place. Donc au stade initial, les choses apparaissent désirables, que ce soit des relations, que ce soit des biens, que ce soit... Ils ont l'air d'être porteurs d'un bonheur à venir, sinon on ne serait pas attiré par ces choses-là. S'ils n'avaient pas l'air d'être porteurs de quelque chose d'agréable, on ne serait pas attiré par eux. Mais pourtant, à mesure que le temps passe et que les circonstances changent, eh bien cet objet qui apparaît désirable, qui apparaît beau, qui apparaît même superbe, se transforme en quelque chose de laid, d'indésirable, ou quelque chose même qu'on veut éviter. C'est ça la souffrance du changement. Donc on a tous fait ce genre d'expérience. Et si nous sommes assez attentifs, en fait, finalement, ça devient assez évident. Et ça, c'est la souffrance du changement. À cause de la situation qui change. Et ça veut dire aussi que notre point de vue sur les choses et sur les objets change également. Tout ça, ça change. Donc, c'est lié, bien sûr, à l'insatisfaction, qui est une des règles générales du samsara. Donc le bouddhisme dit que tout est impermanent, forcément. Donc l'impermanence, elle est inscrite dans la souffrance. Elle s'inscrit dans la souffrance. En fait, la souffrance est une caractéristique de l'impermanent. Ou plutôt, l'impermanence est une caractéristique de la souffrance. Ou même, on peut le voir dans les deux côtés. Et que même le changement, en fait, apporte une souffrance, finalement. Parce que nous voulons que les choses, parce que quelque part, quand on est bien, on a envie que les choses demeurent. Mais l'impermanence nous amène une certaine souffrance. Donc du coup, nous sommes sans cesse confrontés à de nouveaux problèmes. Voilà. Donc pour ça, bien sûr, il faut regarder l'impermanence. Ça nous amène aussi à regarder, à contempler l'impermanence. Comment cette impermanence donc amène de la souffrance. J'en viens. Donc ça veut pas dire que voilà, il ne faut pas rechercher de plaisir. Hein, il n'y a pas de mal à avoir du plaisir, mais il faut pas, faut bien être conscient que ce plaisir est de nature impermanente. Il est de nature changeante. Hein. Et quand nous sommes attirés par quelque chose, quel que soit cet objet ou cette chose en question, il faut garder à l'esprit que cette chose, elle va changer. Et c'est sa nature d'être impermanente, et c'est la nature des relations d'être impermanente, c'est la nature de notre esprit d'être impermanent. Donc forcément, tout ça va changer. Hein. Ce qui nous attire à ce moment-là va perdre de son attrait à un moment donné. Alors qu'on n'a pas l'impression... Hein, quand on a, voilà, on a l'impression que, voilà, que cet objet ou cette personne va toujours nous combler. C'est un peu ce qu'on attend d'elle. Mais c'est jamais comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'extérieur à nous. Et jamais quelque chose d'extérieur à soi ne peut apporter une satisfaction permanente. En fait, c'est d'être vigilant et le bouddhisme nous recommande d'être suffisamment attentif et de ne pas tomber donc dans des émotions trop fortes qui vont apporter de la souffrance. Ces émotions trop fortes qui semblent apporter un grand plaisir et qui, à un moment donné, nous conduisent à une souffrance aussi forte, quoi. Donc tout ça, c'est des expériences qu'on a tous fait. La souffrance omniprésente, donc ça, c'est le troisième niveau. Le niveau le plus important du point de vue bouddhiste. Et pour le comprendre, vraiment, donc, il faut vraiment une explication approfondie. Et c'est à ça que le Bouddha se référait quand il parlait justement de comprendre la souffrance. Hein, lorsqu'il affirme que la souffrance, c'est quelque chose qu'il faut la comprendre. Donc cet attachement, donc c'est lié, donc enfin cette souffrance, elle est liée au fait d'avoir ces agrégats contaminés, d'avoir un corps contaminé, d'avoir des consciences contaminées, d'avoir tous les facteurs mentaux qui sont contaminés. Donc cette souffrance, elle est partout en fait, puisque c'est comme si nos agrégats étant contaminés, nous transportons en fait notre propre samsara en nous-mêmes. Ce qui veut dire qu'en fait, notre existence n'est rien de plus que ces cinq agrégats. Le moi auquel on croit, c'est juste une fabrication mentale. Hein. Il n'y a pas un moi qui est possesseur des agrégats. Il n'y a que ces agrégats-là hein, qui sont... notre existence, elle se limite à ça. Donc, ces agrégats étant contaminés, notre existence est contaminée. Notre existence est souffrance. Pardon. C'est ça ce que le Bouddha veut qu'on perçoive. Et c'est pour ça qu'il a enseigné le niveau subtil de l'impermanence. Le niveau subtil de l'impermanence que le Bouddha a enseigné, c'est qu'il n'y ait pas nécessaire pour que quelque chose change, que quelque chose se transforme, il n'y a pas besoin de quelque chose d'extérieur, comme on le croit en général. On croit que les choses se transforment parce que c'est à l'événement extérieur qui les fait se transformer. Mais le Bouddha, en fait, l'impermanence subtile, c'est que ce processus de souffrance lié à l'impermanence subtile, en fait, il est déjà en nous du fait des agrégats contaminés. On est porteur de ce niveau d'impermanence subtile qui a lieu en nous. Et donc c'est en ce sens-là que la souffrance, elle est omniprésente ou omnipénétrante, si on veut, on peut le traduire aussi comme ça, parce qu'elle pénètre toute notre existence. Et là, c'est vraiment le niveau le plus subtil auquel on peut arriver, de voir comment cette souffrance pénètre toute notre existence. Donc quand le Bouddha parle de l'impermanence subtile, il dit qu'en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir quelque chose d'extérieur, que le fait que quelque chose change, à partir du moment où quelque chose apparaît, vient à l'existence, il porte en lui, enfin, où est cette chose, elle porte en elle, sa cessation. Hein ? Dès qu'il y a naissance, il y a cessation. Donc on peut avoir l'impression que les choses apparaissent. Okay. Ça, c'est l'impermanence grossière. Les choses apparaissent, elles durent un certain temps, et puis elles disparaissent. Les saisons, par exemple. Hein. Voilà, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit, ça apparaît à un moment donné, un moment de plaisir, un moment de joie, ça apparaît, ça dure un certain temps et ça disparaît. Ça, c'est l'impermanence grossière. L'impermanence subtile, c'est très, 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 très proche de la vacuité. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans l'objet qui soit vraiment stable, qui est une existence en soi. Il n'y a rien. Il n'y a aucun phénomène qui est doté d'une essence propre, qui serait stable, qui serait permanente. Ça n'existe pas. C'est introuvable. On ne peut pas trouver ça. Ni dans le je, ni dans le moi, ni dans la table, ni rien, dans aucun... Tout ça, c'est fait d'éléments composés, conditionnés. Conditionnés, composés, conditionnés, c'est un peu la même chose. Pour parler d'une table, on va dire que c'est composé de plein de choses, plein d'éléments. Des éléments les plus grossiers aux éléments les plus subtils de l'atome, des molécules, etc. Pour le moi, c'est pareil. C'est quelque chose aussi qui est en fait que nos agrégats. Si on le découpe, si on le cherche, le moi, on ne trouve rien. On ne trouve rien d'autre que nos agrégats, qui sont encore décomposables. Et dans tout cela, il n'y a pas la moindre permanence. Hein. Donc à partir du moment où quelque chose apparaît, il est déjà conditionné par le fait qu'il va cesser, en fait. Et vous allez même plus loin, c'est-à-dire que le premier moment apparaît, mais au deuxième moment, cette chose-là n'existe plus. Le premier instant semble exister, Deuxième moment, il n'existe plus. Donc la table n'est jamais la même table. Le moi n'est jamais le même moi. Rien. Et c'est ça donc ce qu'on appelle la souffrance de l'omniprésente, donc du fait que tout est conditionné à notre niveau par le karma, par les perturbations mentales. Donc c'est vraiment le niveau le plus subtil et qui est présent tant que nous naîtrons dans l'existence cyclique. Et c'est vraiment le niveau qu'il faut essayer de percer. Et ça, on ne peut pas l'éviter, à notre niveau-là. Hein. On ne peut pas l'éviter. On est complètement prisonnier. C'est dans ce sens-là où on parle de prison du samsara. C'est que ce niveau de dépendance, on va dire, ou d'emprisonnement, il est lié donc à nos agrégats, à nos consciences, à nos perceptions, à nos sensations, à tout ce qui nous compose. Et donc ça, c'est difficile de reconnaître ce type de souffrance pour des êtres soi-disant ordinaires comme nous. Quoi. Parce qu'on ne le voit pas. Hein. C'est impossible à voir. Il faut que le Bouddha nous donne des explications pour qu'après on se dise, bah oui, pourquoi pas, finalement, il n'a pas tort. Puisque tout est vide, finalement, tout est conditionné par ces agrégats, quoi, cette souffrance qui est là en permanence. Enfin, en permanence. Dire, qui est omniprésente, on va dire. Donc, que dire de plus de par, voilà. Donc, pourquoi le Bouddha lui dit qu'il faut la reconnaître ? Parce que c'est à partir du moment où on la reconnaît, que nous pouvons commencer à comprendre comment l'abandonner. Et ça va être le but du jeu, ça. Ça va être le but de nous montrer, justement, comment faire pour l'abandonner. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cette description de la roue de la roue du samsara qu'on verra donc la prochaine fois pour nous montrer comment on rentre dans l'existence cyclique et comment on peut en sortir. Donc très intéressant. On verra ça plus en détail la prochaine fois. On analysera les 12 liens justement de la causalité et oui, donc pourquoi cette souffrance, elle est difficile à percevoir pour des êtres ordinaires, parce qu'en fait, elle est complètement enracinée dans les causes et les conditions. Elle fait partie des causes et des conditions, cette souffrance, qui est des choses que l'on vit et qui font partie de notre quotidien, qui sont notre vie. Et elle est complètement liée à ça. Et donc, on ne peut pas la dissocier de toutes ces causes et conditions qui font que l'on est que l'on existe, quoi, en fait. C'est en fait ce qu'on appelle l'origine interdépendante, hein, en termes un peu techniques. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Étienne.
Oui, c'était à propos de l'impermanence. Je comprends tout à fait l'idée de l'impermanence subtile ou grossière, les choses qui s'abîment, qui se rangent, qui se cassent. Mais qu'en est-il de la fonction ? Une fonction peut être maintenue. Si on parle d'une table, par exemple, elle est cassée, on change de pied, le plateau est rayé, on le repeint. Voilà, la fonction reste la même. L'objet change, mais la fonction reste la même. Par exemple, le dharma, il a été maintenu, les gens ont changé, les maîtres sont passés, d'autres sont venus, et l'action est maintenue. Est-ce que c'est de l'impermanence toujours ?
La fonction, oui.
Parce que la fonction reste.
La fonction de la chose en question, elle reste. Ouais. Il y a toujours, elle garde la même fonction. Mm. Ouais, ça ne change pas, effectivement. La fonction d'une table, moi, je sais pas, moi, c'est de servir de support, par exemple, voilà, avec certaines caractéristiques. Mais d'après, oui, ça a une fonction. Mais cette fonction, elle reste, mais elle n'existe pas véritablement. Elle dépend de cause et de condition.
Oui.
Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Mais donc, de ce fait-là, cette fonction n'est pas permanente, en fait.
Oui.
Elle dépend de cause et de condition.
Conditionnée, d'accord.
Ouais, elle est conditionnée. Et voilà. Toutes les choses. Tout fonctionne dans le samsara. Et dans le nirvana aussi. Mm. Tout a une fonction, effectivement. Tout a une fonction. Et. Cette fonction, elle dépend de cause et de condition aussi. La fonction d'une table, c'est de servir de support. J'avais posé la question à Robina, justement. On avait parlé de cette question quand on parlait justement de la fonction. Parce qu'on pourrait penser que quand on parle de la vacuité, ça si on nie trop l'existence des choses, eh bien. On risque de tomber dans une espèce de nihilisme où plus rien ne fonctionne. Or, la vacuité n'empêche pas le fonctionnement des choses. Au contraire, c'est là où c'est subtil, si tu veux. C'est que c'est grâce à la vacuité que les choses peuvent fonctionner. C'est grâce à l'impermanence, ou l'impermanence subtile, ou à la vacuité, que les choses peuvent fonctionner. Sinon, elles ne pourraient pas fonctionner. Si les choses n'étaient pas vides d'existence propre, si les choses n'étaient pas interdépendantes, elles ne pourraient pas fonctionner. Elle n'aurait pas cette fonction. Et donc là, ça m'avait éveillé cette question. Non pas que j'essayais de piéger Robina, c'est pas mon tempérament. Mais non, je déplaisante. Mais ce qui m'est apparu à ce moment, c'est quelle est la fonction du jeu ? Quelle est la fonction du moi ? Puisqu'il n'existe pas, le moi, bien sûr, on est bien d'accord. Quelle est sa fonction ? Alors, pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est de pouvoir vivre dans le monde conventionnel. Ouais, j'accepte. Pas mal. Et Robina m'a répondu de créer du karma. Ce qui revient un peu au même. Puisque le karma, c'est le monde conventionnel. Très bonne réponse. Je suis allé tester après avec Geshe Loden, il m'a dit, oui, c'est pas mal. Donc cette création de karma, oui, c'est ça, c'est la fonction du jeu, en fait. On crée du karma qui est purement conventionnel. Karma est purement conventionnel. Mais la vacuité n'empêche pas le karma de fonctionner. Et on pourrait croire que la vacuité, du fait que les choses sont vides, elles ne fonctionnent pas, donc le karma ne fonctionne pas. Puisque c'est vide, puisque le karma est vide. Ben non. Mais bon, c'est une piste de réflexion assez intéressante. Il y en a d'autres choses intéressantes qui sont des sujets difficiles comme ça à comprendre. C'est par exemple le fait qu'une graine, qui est une action, qui a été créée à un certain moment, dans une vie, qui a mis une graine, que cette graine mûrisse dans 64 vies plus tard et donne le résultat. Ça, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ça. comment justement cette potentialité de la graine, puisque tout est vide, hein, cette potentialité de la graine, mais je n'ai pas suffisamment compris la vacuité, sûrement, parce que il me manque encore des choses subtiles, beaucoup même. Et donc, pourquoi la graine, 64 vies plus tard, elle va pouvoir donner ce résultat, quoi. Un résultat similaire à la cause, si tout est vide. Et bien, justement, la Matsang Kapa a prouvé tout ça, qu'il y a une potentialité qui passe comme ça, de vie en vie. Donc ça fait partie des questions difficiles à résoudre.
Ouais. Je voulais rebondir sur ça, justement.
Ouais, vas-y.
Est-ce qu'il y a une
pas trop, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir rebondir, moi.
Non, est-ce qu'il y a une propension, justement, des actes karmiques
propension, c'est ça.
À se réaliser dans une vie ou...
Comment ? Pardon ?
Est-ce qu'ils ont une propension, une plus grande chance de se produire quand même dans cette vie-là ? Ah. Ou c'est complètement aléatoire
Pas forcément, non. Non, non, c'est ça qui est très intéressant. Ça peut, c'est rare même que ça donne un résultat dans cette vie-là. C'est-à-dire les actions que tu as créées dans cette vie-là vont pas forcément avoir un résultat dans cette vie-là, mais dans d'autres vies. Parce que ce qu'on vit, les expériences que l'on a dans cette vie-là, en fait, finalement, c'est le mûrissement de karma antérieurs qui ont été créés antérieurement. Il faut un certain laps de temps, je suppose, pour que ce karma puisse mûrir. Il y a un effet de mûrissement. Quand on parle de mûrissement ou de maturation, il y a du temps qui passe quand même, tu vois. Si je crée, mais parfois non. Parfois, il peut y avoir le résultat immédiat. Une action peut avoir un effet immédiat. Hein. Mais ça, est-ce que c'est vraiment du karma ou je sais pas si n'importe quoi. Si je te frappe, tu vas avoir mal, par exemple, tu vois. Mais est-ce que ça, c'est pas vraiment du karma. Mais le karma que j'ai en te frappant, par exemple, il va peut-être pas mûrir pour moi tout de suite. Il va peut-être mûrir dans la vie suivante ou dans 64 vies plus loin, plus tard. Pourquoi ? Comment ça se fait, ça, que cette action négative que j'ai créée en te frappant, elle mûrisse, elle porte ses fruits dans 64 vies et pas dans 63 vies ? Parce qu'il y a des causes et conditions qui vont la faire apparaître. Comment est-ce que les causes et conditions apparaissent ? Qu'est-ce qui les fait apparaître ? C'est les autres, c'est moi, c'est quoi ? Voilà, c'est ça qui est intéressant à se poser comme question. Oui ?
Donc il est commis par Zoom ?
Voilà, un Geshe, par exemple, comme Geshe Loden, ils ont débattu toutes ces questions dans leurs 20 ans ou 25 ans d'études. Moi, j'avoue que j'en suis loin et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir répondre à ce genre de questions. J'ai aussi beaucoup de questionnements personnels qui ne sont pas résolus. Ouais, voilà.
Tu peux parler ?
Oui, bien sûr.
J'ai un petit souci avec cette notion d'impermanence. D'un côté, elle est présentée comme une source de souffrance, puisque rien ne dure. Et d'un autre côté, on la présente aussi comme un remède, puisqu'elle permet un certain détachement finalement face aux choses.
Ouais,
donc il y a l'éthique qui est double. Donc c'est ça un petit peu.
C'est vrai que si on est en train de souffrir, si on a un problème, on peut toujours se raisonner en disant ouais, bah, puisque tout est impermanent, ce problème ne va pas durer. Hein ? Donc dans ce cas-là, l'impermanence va être une espèce de soulagement. On va se dire, voilà, ça va pas durer. Ça fait partie justement des remèdes que l'on peut appliquer. Après, bon, ça va durer. Hein, voilà. C'est ce qu'on peut se dire en tout cas. Mais ça fait pas partie de la caractéristique de la souffrance. Tandis que l'impermanence fait partie des caractéristiques. Bon, je pourrais vous les donner, mais là, je ne les ai pas en tête. Chacune des quatre nobles vérités a quatre caractéristiques. Et donc, la caractéristique de la souffrance, la vérité de la souffrance, la première caractéristique, c'est l'impermanence. Ça ne veut pas dire que parce qu'on souffre, c'est impermanent, mais c'est justement parce que cette impermanence apporte de la souffrance. Les choses ne durent pas, ne peuvent pas durer. Et ça provoque une souffrance, par exemple. Le fait qu'on ne sache pas où on en est, quoi, finalement. C'est jamais stable.
Et pour, Et pourtant, tu as dit tout à l'heure que l'impermanence, elle est très proche de la, enfin, à un niveau subtil.
Subtil.
Je parle, hein,
à un niveau subtil.
Pas justement oui. De la douleur comme ça. Elle était très proche de la vacuité.
Oui. Au niveau subtil, c'est presque pareil, en fait.
Et donc, la vacuité, c'est pas souffrance. C'est pas, ça peut pas être de la souffrance, la vacuité.
Non, non, mais là, quand on parle, quand on parle des caractéristiques grossières, là, c'est l'impermanence grossière hein, dont on parle. Quand on parle comme une caractéristique de la souffrance. C'est l'impermanence grossière. On ne parle pas de la vacuité, là, à ce moment-là. Hein.
Oui, pas très clair.
C'est l'impermanence grossière. L'impermanence grossière, c'est simplement de voir le changement, de vivre le changement, de ressentir que les choses changent. Là, on n'est pas à une analyse ultime. Hein. Quand on parle de l'impermanence, quand on dit subtil, qui est proche de la vacuité, c'est vraiment un niveau qui n'est pas visible de nos yeux, quoi. Hein, qui n'est pas perceptible. C'est une analyse ultime. Hein. Une analyse de la réalité ultime, pas de la réalité conventionnelle. Là, on parle au niveau de la réalité conventionnelle, quand on dit que l'impermanence fait partie de la première caractéristique de la souffrance.
D'accord, merci.
Ouais, est-ce que j'avais quelque chose là-dessus ? Attendez, je vais regarder si je peux vous apporter un peu plus de précision, mais il faut que... Je pense que ça va être là. Les quatre caractéristiques de la vérité de la souffrance. Bon, on ne va pas les faire hein, parce que ça va être un peu juste. Donc, voilà. Les quatre caractéristiques de la vérité de la souffrance. En raison du fait que les phénomènes tels que les agrégats physiques et mentaux subissent continuellement des productions momentanées et des désintégrations, ils sont impermanents. Okay. Ils sont impermanents. Les agrégats physiques et mentaux, donc, qui sont souffrance, subissent continuellement des productions momentanées et des intégrations. Et donc, donc ils sont impermanents. Donc, Donc, Geshe Tashi dit sur l'impermanence, justement. Je vais vous lire ça. Le bouddhisme parle très souvent de la première caractéristique de la souffrance, l'impermanence, en relation avec la mort. Hein, donc on est au niveau vraiment grossier, là, hein, conventionnel. Bien sûr, si nous avons quelque idée de l'impermanence, nous pouvons affronter la mort plus aisément. Mais la raison principale de la compréhension de l'impermanence est de comprendre que l'attachement aux cinq agrégats est souffrance. L'attachement aux cinq agrégats. L'attachement aux cinq agrégats veut dire justement que... qu'on est attaché, et le fait qu'il change constamment nous provoque de la souffrance. Donc, pour comprendre la souffrance omnipénétrante, là, ce dont on parle, omniprésente, nous devons comprendre le fonctionnement de ces différents niveaux d'impermanence. Okay ? De manière générale, nous comprenons que les choses vont et viennent. Bon, ça, c'est facile. Elles viennent en raison de causes et de conditions. Elles demeurent jusqu'à ce que leur durée de vie soit terminée, et ensuite, elles disparaissent. Ça, c'est le niveau grossier. À ce niveau, il n'est pas difficile de comprendre que les choses sont impermanentes. Au-delà de ce point, cependant, se trouve un niveau plus subtil d'impermanence dont il nous faut devenir conscient. Ce niveau est désigné par le changement d'instant. On dit ça change d'instant en instant. Cette table change d'instant en instant. Ça paraît pas évident quand même. Hein. Donc, ce niveau est désigné par changement d'instant en instant. Il se réfère au fait que les choses ne demeurent pas semblables, même pour un moment. Ça veut dire au moment suivant, elles sont changeantes. Elles sont différentes. Les choses ne demeurent pas semblables, même pour un moment. Ceci encore n'est pas trop difficile à comprendre. Par contre, l'aspect de l'impermanence qui nous pose la plus grande difficulté de compréhension est que lorsque les phénomènes viennent à exister en raison de causes et de conditions, et que ces mêmes causes et conditions qui les produisent, au même moment, contiennent les graines de leur propre destruction. Voilà ce que c'est que l'impermanence subtile. Le niveau le plus subtil de l'impermanence. Je vous le relis. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Par contre, l'aspect de l'impermanence qui nous pose la plus grande difficulté est que lorsque les phénomènes viennent à exister, en raison de causes et de conditions, ces mêmes causes et conditions qui les produisent, au même moment où ces causes et conditions les produisent, Au même moment, elles contiennent les graines de leur propre destruction. C'est-à-dire au moment où la chose apparaît, elle a presque déjà cessé, quoi, en fait. La cause qui l'a fait apparaître contient en elle la graine de sa destruction. Au cours d'une émission, ouais, bon, ok, après, donne des exemples. Nous pouvons prendre l'impermanence d'une table comme exemple. Il est assez aisé de voir qu'une table vient exister par la réunion de l'ensemble de ses causes et de ses conditions. Ok ? Du bois, etc., les pieds, tout ça. Hein ? Quelqu'un qui la fabrique, etc. Et que viendra le moment où cette table n'existera plus ? Ok ? Où elle sera détruite par un processus de destruction naturelle ou par d'autres forces, telles que si quelqu'un la brûle, par exemple. Hein ? Toutefois, dès le moment de la création de la table, d'un point de vue bouddhiste, elle ne reste pas statique. Elle s'achemine inexorablement vers sa désintégration. Ceci indique que les causes et conditions qui produisent ces phénomènes contiennent la graine de sa destruction. Et ce processus renferme en lui-même le potentiel de produire de la souffrance. Voilà. Je pense que vous ne pouvez pas mieux vous l'expliquer. La table, tout au début, vient exister par le pouvoir d'autre chose. Elle-même n'a aucun pouvoir de venir à exister par elle-même. Okay, dépend de cause et de condition. De la même manière, tout existe par le pouvoir d'autre chose. Et dans ce contexte, rien n'est vraiment libre. Tout repose sur d'autres pouvoirs, sur d'autres facteurs pour venir à exister. Ça, c'est vraiment l'interdépendance la plus subtile. Donc voilà, j'espère que vous êtes satisfaite. Je n'aurais pas mieux vous dire. Hein. C'est un Geshe qui vous parle et vraiment, il est allé au plus profond, je pense. C'est bon ? Pas de réponse. Ça va être clair, alors. C'est clair pour vous ? C'est intéressant. C'est hyper intéressant quand on s'intéresse justement à comment les choses fonctionnent. Hyper intéressant, je trouve. Hein, en tout cas... Donc ça montre que notre perception des choses, elle est vraiment extrêmement grossière, qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles existent, hein, et qu'il faut que le Bouddha vraiment nous incite à y regarder de près. Quoi. D'autres questions ? Mais merci pour la question, c'était intéressant, ça nous a permis de clarifier quelque chose de très très important. On fait une petite pause s'il n'y a pas d'autres questions. Hein, peut-être juste 10 minutes. Ouais, il est 4h30. Voilà, ça ne vaut pas le coup. Hein. Ouais, non, on arrête à 5h. Oui, des questions alors ?
Oui. Bonjour.
Bonjour.
Tu peux dire quels sont les livres que tu as à ton côté ?
Ah, les livres que j'ai à mon côté. Ben, celui-là, vous n'allez pas le trouver. Il n'existe plus. Il est plus. Peut-être à la bibliothèque. C'est le livre de Geshe Tashi qui s'appelle « Les quatre vérités des Aryas, des nobles Aryas ». Les éditions Vajrayogini n'existent plus, elles ont été remplacées par les éditions Mahayana. Et ce livre n'a pas... Je pense qu'il va être... j'espère qu'il va être republié, réédité. Pour l'instant, il n'est pas disponible. Hein, mais vous pouvez le trouver dans les bibliothèques. « Les quatre vérités des nobles Aryas ». J'ai ce livre-là, bon... sur lequel je me suis appuyé sur quelques citations, qui s'appelle « Le précieux ornement de la libération » de Gampopa. C'est un lamrim aussi, donc c'est juste pour la souffrance. Et puis j'ai ce livre, bon, pour les anglophones qui lisent l'anglais, il y a un très bon livre de ce Sante Dalai Lama de Thubten Chodron qui s'appelle « Samsara, Nirvana et la nature de Bouddha ». C'est très très, très très bien, écrit en collaboration avec les Dalai Lama et Thubten Chodron. C'est en anglais, malheureusement, c'est pas encore traduit. Voilà mes livres sur lesquels je me suis appuyé pour cet enseignement. Voilà, en gros. Surtout sur Geshe Tashi, je dois dire. Et ouais. Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'il faut approfondir. Hein, et, vous voyez, ça peut vraiment mener très très loin, cette réflexion sur la souffrance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer à notre quotidien? C'est ça qui serait intéressant de faire, justement, pour... Quand le Bouddha a dit que la vérité de la souffrance devait être pleinement comprise, hein, je pense que ça veut dire qu'il nous incite à faire des efforts pour pas simplement rester au niveau superficiel et de subir, en fait, hein, de subir la souffrance. Mais plutôt mais de s'interroger là-dessus, puisque la souffrance, c'est ce qui a amené le Bouddha à la libération. Donc c'est une voie de libération, la souffrance. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que la souffrance? Donc c'est surtout analyser ces trois souffrances dont on vient de parler. La souffrance du changement. Et la souffrance du changement, on peut le voir dans notre vie quotidienne. Bon, la souffrance, c'est évident. On a tous des relations problématiques avec certaines personnes, par moment, parfois non, ça va, ça vient. Mais la souffrance du changement aussi, comment ça se passe quand on a une souffrance et puis que cette souffrance elle est remplacée par un plaisir. Est-ce que ce plaisir est durable? Regardez ça un peu. Qu'est-ce qu'on met sur le plaisir? Comment est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on vit comme quelque chose? Comment est-ce qu'on le recherche aussi? Voilà, tout ça, regarder. Et comment c'est lié au moi aussi, surtout. Comment on relie ça au moi? Dès qu'on se réveille le matin, en fait, il y a une quête de plaisir personnel qui se met en place. Et voir à quel moment, justement, cette quête de plaisir, elle peut être. Elle est soit satisfaite, soit insatisfaite. En tout cas, je pense que ce que demande le Dalai Lama quand le Bouddha, quand il nous demande de regarder la souffrance, c'est justement de l'intégrer dans notre quotidien, plus possible, et de ne pas l'éviter, bon, comme on l'a dit. Ça ne veut pas dire, donc, je l'ai dit, c'est très important donc, de bien le comprendre, que le renoncement, ce n'est pas renoncer au plaisir. Si c'est pas ça le bouddhisme, hein, on renonce pas au plaisir. Même samsarik, s'il y a des plaisirs samsarik, on peut très bien en jouir de ces plaisirs samsarik. Après, c'est de ne pas s'y attacher, de voir leur essence, de voir en quoi ils sont insatisfaisants. Hein, tout ça, c'est à regarder. Et si le renoncement, ça consistait simplement à renoncer au plaisir samsarik, eh bien, voilà, on renoncerait au plaisir samsarique, on irait se mettre dans une grotte ou je ne sais pas quoi, ou on renoncerait à tout, mais ce n'est pas pour ça qu'on serait libéré. Ça ne nous mènerait pas à la libération, ça. Rien du tout. Peut-être ça amènerait à un état, je ne sais pas, à un état où on arrive à peut-être à être plus ou moins, peut-être très mal d'ailleurs, hein, où on est toujours dans un état où on est toujours en lutte, finalement, avec soi-même. À s'efforcer de ne pas ressentir le moindre plaisir, à vouloir toujours justement se satisfaire de ce qu'on a. Bon, ça c'est bien, mais à éviter toute forme de plaisir. Et là, ça ne mène pas à la libération, ça. Ça mène peut-être à la frustration. Donc ça c'est vraiment faire fausse route, hein, de croire qu'il faut absolument renoncer au plaisir samsarique. Et ça, Lama Yeshe, il le dit très bien. En fait, le renoncement, c'est pas renoncer au plaisir, c'est renoncer à la souffrance. Hein? C'est ça le renoncement. On renonce pas au plaisir, mais on renonce à souffrir en voyant ce qui nous fait souffrir. Et ce qui nous fait souffrir, c'est l'attachement. C'est jamais le plaisir lui-même. En tant que tel, le plaisir, il n'est pas souffrance. C'est l'attachement au plaisir qui est souffrance. Ça doit être bien clair. Et donc, c'est une... la traduction de renoncement, elle est bonne, hein, puisque sortie définitive, c'est ça, c'est-à-dire voir ce qui nous fait souffrir et renoncer à souffrir. Donc, dans certains... Bien sûr, ça peut vouloir dire se débarrasser ou se séparer de l'objet qui nous fait souffrir, dans un premier temps. Sachant que ce n'est pas l'objet qui nous fait souffrir. Mais nous, notre attachement à cet objet. Ok ? Donc ça, c'est à bien regarder. Donc ne pas avoir ce refus des plaisirs samsariques. Hein, parce que un plaisir samsarique peut être source de s'il n'est pas pollué par l'attachement, pas dangereux. Il n'est dangereux que lorsqu'il y a l'attachement. Hein, c'est ça qui amène la souffrance. Ouais. Par exemple, moi je suis très attaché au chocolat. Chaque fois que j'en mange, j'ai mal au foie ou mal à la tête. Et que quand j'en mange pas, que j'ai pas mal à la tête. Tout à l'heure, j'ai mangé du chocolat, j'ai mangé 3 carreaux, j'ai un peu mal à la tête. Là. Pourquoi ? C'est stupide. Je sais qu'il y a une corrélation de cause à effet. Et si je si je veux pas avoir mal à la tête, il faut pas que je mange du chocolat. Mais c'est pas le chocolat. Parce que vous allez manger du chocolat, si vous n'avez pas mal à la tête. C'est moi, dans ma relation avec le chocolat, où j'ai un problème. Je ne m'offrez pas de chocolat. Et donc, chaque fois que je vais en manger, non, pas chaque fois, mais bon. Si j'en mange avec attachement, je vais remarquer que j'aurai plus mal à la tête que si, comme ça. Mais, oui.
En médecine tibétaine, il est dit que le chocolat apporte le mal à la tête.
Ah ben, je l'ai testé, hein, je peux te le dire. Je peux te tester que.
Quand je mange trop, j'ai des petites migraines.
Exactement. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, alors, pour éviter la migraine ? Voilà. Donc, ça peut être une méthode, hein, de ne pas manger de chocolat pour ne pas avoir de migraine. Mais pourquoi ? Parce qu'on a compris la relation de cause à effet. Si on n'a pas compris cette cause-là à effet, juste se priver de chocolat parce qu'il faut se priver de chocolat, c'est complètement stupide. Si le chocolat vous fait pas mal à la tête, mangez du chocolat. Mais si vous fait souffrir, si votre attachement au chocolat vous fait souffrir, il vaut mieux arrêter à ce moment-là. Vous ne souffrirez pas. Vous avez vu la relation de cause à effet. Et et il se peut très bien que...
Question.
Oui.
Justement, en parlant de souffrance, moi, c'est une personne qui est très proche, qui me fait souffrir, qui ne me faisait pas souffrir, mais qui me fait souffrir maintenant parce que j'ai changé. Alors, est-ce que c'est la souffrance du changement, c'est mon propre changement qui me fait voir que, comment dire, que je peux pas me passer de cette personne.
C'est pour ça qu'elle te fait souffrir.
Je ne sais pas comment gérer cette.
Elle te fait souffrir parce que tu penses que tu ne peux pas t'en passer. C'est ça, non ? D'après ce que je comprends. Non ?
Je peux m'en passer, mais je ne peux pas être supprimer cette personne comme on peut supprimer du chocolat. Non. C'est plus difficile. Je peux pas supprimer cette personne. Je ne veux pas.
Tu ne veux pas supprimer. Ou tu peux pas.
C'est ma sœur.
T'es obligé de vivre avec elle ?
Vivre, non, mais la relation, quand on se voit bien moins qu'avant, alors qu'avant on était en osmose, mais moi j'étais...
T'as changé, et donc du coup, il y a une...
Mais maintenant, ça me fait souffrir.
Ah bon ?
Parce que...
Pourquoi ça te fait souffrir ?
Parce que quand on se voit, on n'a plus cette même relation. C'est-à-dire qu'on a du mal à supporter retrouver ce changement. Mmh. Alors, on n'a plus la même vision de la vie. Donc, c'est comme...
Et cette vision différente de la vie, elle est source de conflit ?
Non. Non, parce qu'on n'en parle pas. Il y a des sujets qu'on évite. Donc moi, je vais...
Ouais, je comprends. Ouais.
Voilà. On va partager d'autres choses, moments.
Bien sûr,
ouais. Mais il y a des retenues.
Et qu'est-ce que tu voudrais ?
Moi, arriver à accepter ça, à accepter maintenant cette différence et la prendre comme elle est, accepter comme elle est et pouvoir vivre.
Et qu'est-ce qui t'en empêche ?
Ben là, parce que maintenant, je vois sa souffrance maintenant, puisque j'étais comme elle avant. Donc, je vois sa souffrance maintenant. Et là, il y a une part d'énervement.
Quelle souffrance ?
Ah ben, toutes les souffrances qu'on a énumérées, toutes les souffrances du samsara, oui. L'attachement. Okay, okay. Voilà, l'attachement, beaucoup l'attachement. Mm-hmm. Et donc. Et elle en souffre, même si elle ne le dit pas. Il y a des choses que...
Et toi, tu voudrais qu'elle n'en souffre plus.
Ben voilà. Mais je ne peux rien pour elle. Si... J'ai essayé, mais... Bon, elle m'a fait comprendre que non. Bon, voilà. Moi, ce que je raconte... Donc, j'ai complètement arrêté. Donc, on parle de sujets autres. Mais il y a une tension. On est réservé, quoi. Voilà. Il n'y a plus...
Et qu'est-ce qui manque ?
Voilà, mais compassion. Alors, c'est beau travailler là-dessus. Mmh. Ça m'énerve. Là, je suis dans le... Peut-être même dans la colère qu'elle ne comprenne pas. Et je suis désolée pour elle.
Donc, c'est tes perturbations mentales, en fait, qui bloquent. C'est bien de voir tout ça. C'est super. Continue. Sur la bonne voie. Continue. C'est bien. Et fais des souhaits, fais des prières. Invoque les maîtres, invoque les lamas. Fais-toi aider. Fais des prières. Tu demandes à Shenrezi, le Bouddha. Quand tu prends refuge, elle est à tes côtés. Tu prends refuge avec elle. Tu l'inclus dans ta pratique le plus possible. Et tu la remercies. Tu la remercies parce qu'elle te montre vraiment des... Comment te libérer des perturbations mentales. Donc c'est un beau cadeau qu'elle te fait. Donc quand il y a ces problèmes, quand on a des problèmes, justement, quand on a des souffrances, puisqu'il y en a forcément tout le temps, il y a toujours cette phrase, cette strophe de Shantideva, qui revient souvent à la tête, c'est de dire si le problème a une solution, s'il y a une solution au problème, c'est pas la peine de s'en faire. Hein, et s'il n'y a pas de solution au problème, qu'on ne pourra pas le changer, c'est pas la peine de s'en faire non plus. Sa sainteté donne toujours cette phrase, cette strophe en exemple, justement. Ça a l'air de rien comme ça, ça a l'air banal, complètement anodin, mais plus on y réfléchit, et surtout en situation, plus c'est vraiment quelque chose de très, 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 très profond. Et il faut dépasser, je pense, le côté banal de ce petit truc, ça paraît comme une blague, quoi, quand on dit ça. Mais c'est extrêmement profond. Et là, c'est libérateur, même. C'est libérateur parce que, ben oui, parce que ça nous oblige à accepter, justement, de lâcher prise, en fait, par rapport au problème. Et en voyant qu'il n'y a pas de solution. Et nous, on est toujours dans la saisie, quoi, dans la saisie du problème. C'est mon problème, souvent. Hein. Ça n'est pas notre problème. Juste une petite remarque, pas pour gérer cette souffrance, parce que c'est ça qui va... Au quotidien, on est face à la souffrance, donc il faut aussi la gérer au quotidien. C'est un maître Theravada, lui, plutôt, qui dit ça. Il dit qu'en fait, il ne faut pas penser « je souffre ». Mais il y a souffrance. Et ça change aussi beaucoup les choses. Quand on dit « je », souvent, cette souffrance, on se l'approprie. C'est ma souffrance, je souffre. On ne le dit pas comme ça, forcément. Mais c'est un petit peu ça que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est moi qui souffre. Et de dire « il y a souffrance », oui, effectivement, il y a souffrance, mais... se dégager un petit peu, de se distancer de cette personne à laquelle on croit, à laquelle on accorde une existence véritable, qui est nous, qui est moi. Mais la souffrance existe. Le jeu, voilà, c'est... Ni la souffrance ni le jeu n'existent, bien sûr. Mais c'est ce qu'on en fait, en fait. Nous, on l'a fait exister parce qu'on fait exister le jeu. Donc forcément, on fait exister la souffrance. Mais la souffrance n'a pas de propriétaire. Elle n'a pas de propriétaire. Donc c'est pour ça qu'on dit, il y a souffrance, ben oui, il y a souffrance, mais il n'y a pas de propriétaire. C'est là. C'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Une autre méthode pour faire face à la souffrance, c'est de... pour renoncer finalement à ça, c'est de voir les inconvénients de la souffrance. La souffrance, comme disait le maître, c'est pas quelque chose qui nous aide. Hein. Se mettre en colère ou créer de la souffrance, tout ça, ça nous aide pas. Hein. C'est au contraire. C'est... Mais on a quand même voilà, on a ce truc où on... Ouais, enfin, on a un petit peu l'impression que... que ça va nous aider quelque part de souffrir, mais il faut voir donc voir les inconvénients, voir ce que la souffrance apporte comme inconvénient dans nos relations aux autres, dans nos relations à nous-mêmes, essayer de bon ça on y viendra peut-être plus la prochaine fois, je sais pas si bon bref oui vas-y pose ta question.
Ou peut-être prendre la souffrance sous un autre angle, la prendre comme un exercice.
Comme vous pouvez, ça c'est. Oui, oui, bien sûr. On peut toujours apprendre avec patience. La patience, c'est une bonne, un bon antidote aussi à la souffrance. La patience, si on peut, effectivement. Une chose que je voulais ajouter par rapport au plaisir samsarique, que le renoncement, donc c'était pas renoncer au plaisir samsarique, pense que, en fait, parce que si on pense ça, renoncer au plaisir samsarique, ça revient à supprimer le désir. Et ça, c'est pas possible. C'est ça qu'on voudrait finalement. Mais on peut pas supprimer le désir. Donc, ce qu'il faut, c'est le, c'est un peu le transcender ce désir. Hein. Ça fonctionnera jamais hein, de penser vraiment qu'on va supprimer le désir en renonçant au plaisir samsarique. C'est faire aussi complètement fausse route. Il faut voir ce que le désir suscite comme souffrance. C'est ça, quand on parlait des inconvénients, hein, les inconvénients des perturbations mentales. Voir ce que le désir suscite comme souffrance et voir ce que la souffrance entraîne comme autre souffrance, pour soi et pour les autres. Là, on entre dans une perspective plus du troisième type d'individu. Oui, je voulais pour terminer peut-être voir quelques méthodes de méditation brièvement pour nous aider à reconnaître la souffrance. Donc comme méthode de méditation, il y a la méditation analytique. Alors méditation analytique, ça veut dire bon s'appuyer sur les souffrances qu'on vient de voir, les souffrances du samsara, les 8 types, les 6, les 3. Mais ça ne veut pas dire les faire comme ça dans l'ordre et puis toutes les unes après les autres. Prenez celles qui vous touchent le plus, hein, celles qui vous parlent vraiment. Hein. Et puis, il y en aura d'autres après. Explorez aussi les autres, comme vous pouvez. Mais commencez par celles qui vous touchent. Ne faites pas, il faut que je médite sur la souffrance. Allez, je prends la première, après je passe à la deuxième, après à la troisième, et je les passe en revue. Ça n'aura pas vraiment d'impact, quoi. Allez directement à celle qui vous touche, celle qui vous parle, je sais pas, l'insatisfaction ou l'incertitude, voilà. Et essayez de voir surtout, quand vous méditez sur cette souffrance, regardez les effets destructeurs de cette souffrance. Comment cette souffrance, elle est destructrice. Pour pouvoir vraiment en sortir. Si on ne voit pas son effet destructeur, ça reste quelque chose, superficiel, il y a de la souffrance, blablabla, ok, on passe. Mais regardez, essayez de ressentir combien elle est néfaste, combien elle fait du mal, à court terme et à long terme, si possible. Hein. Les conséquences visibles de la souffrance et les conséquences qu'on ne voit pas forcément, parce que bon, on n'a pas de clairvoyance, mais qu'on peut imaginer, par exemple, à long terme. Si on continue à faire perdurer cet état de souffrance, ben, qu'est-ce que ça nous apporte, comment, quel type de personne on va devenir, est-ce que c'est ça qu'on veut, voilà. Quels sont les effets destructeurs de la souffrance. Très important de regarder ça pour générer le désir de vouloir se libérer de la souffrance. Hein. C'est ça le but du jeu, hein. C'est de se libérer de la souffrance. Et donc ça, c'est possible. Et plus on va faire ça, en fait, plus ça va marcher. Hein. Bon, ça, c'est la méthode de méditation analytique. Après, comme je vous le disais, au quotidien, essayez de méditer sur la souffrance du changement. Pensez que chaque fois qu'il y a un objet désirable en notre possession, qu'on possède un objet désirable, il y a simultanément aussi un objet indésirable que l'on rejette. Hein. Les deux vont ensemble. Hein. On désire quelque chose, on veut quelque chose de désirable, mais en même temps, on rejette quelque chose d'indésirable. Et on est complètement pris dans cette dualité. On a envie de quelque chose qui nous ferait vraiment plaisir, et pour se procurer, on va rejeter plein de choses qui semblent aller contre le fait de vouloir. Donc, en même temps qu'il y a le désirable, il y a aussi l'indésirable qui vont avec. Ça, c'est intéressant de regarder aussi. Quand il y a attraction, il y a aussi répulsion. S'il y a attraction, il y a aversion aussi en même temps. Ça, c'est très intéressant à regarder. Qu'il n'y a pas quatre actions. Il y a quelque chose, il y a en même temps, l'attachement est lié à l'aversion. Souvent, on voit ça dans les déités, qui écrasent les deux. Qui écrasent l'aversion et l'attachement. Parce qu'un attachement qui n'est pas satisfait, il provoque de l'aversion. Et on peut développer de l'attachement à l'aversion. Donc lorsqu'il y a attraction, il y a aversion. Un même objet qui peut apporter de la satisfaction peut aussi apporter de l'insatisfaction. Le même objet. Ouais. Et de voir surtout comment, quand on essaye d'obtenir quelque chose, on en rejette une autre aussi en même temps. On veut obtenir une chose et on en rejette une autre. Donc il y a simultanément en fait, ce mouvement. Ou pas forcément simultanément, mais souvent. Hein. Si on se cramponne trop au plaisir, il va y avoir de la souffrance. Hein. On ne pourra pas échapper à la souffrance si on se cramponne, si on est fixé sur le plaisir. La souffrance va forcément arriver de ce fait-là. Après, vous pouvez faire comme méditation analytique, qui est pas mal aussi, mais je crois que je vous l'avais posé dans la question, par rapport aux agrégats. Vous pouvez voir comment les agrégats sont responsables de la souffrance, si vous voulez commencer à rentrer dans cette... c'est pas mal aussi. Comme par exemple, l'agrégat de la forme... C'est une source de nombreux problèmes. Hein. C'est le support de nos maladies, l'agrégat de la forme. C'est le support du vieillissement. C'est l'incertitude. Hein. On ne sait pas à quoi va ressembler notre corps dans quelques années. Et donc, ça génère une certaine anxiété qu'il y a par rapport à la forme. Voilà, par exemple. Par rapport aux sensations, qu'on essaye aussi de... lesquelles posent problème. Le rejet de certaines sensations pour en favoriser d'autres. Et aussi, regarder aussi comment notre souffrance, en fait, souvent, elle vient du fait que nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est, surtout. Hein? On voudrait de la permanence là, en fait, où il n'y en a pas. Donc, voir un peu quand on ressent une souffrance, pourquoi, en fait, on a cette souffrance? Est-ce qu'il n'y a pas chez nous, est-ce qu'il n'y a pas en nous un désir de permanence, de quelque chose de durable? Qui n'est pas dans l'ordre des choses, puisque les phénomènes en question sont composés. Donc on ne pourra pas avoir cette... Mais il y a cet attachement à la permanence, à vouloir que les choses soient permanentes. Et ça, c'est cause de souffrance. Donc voir ça aussi, voir que quand on souffre, quand on a un problème, c'est qu'il y a un désir de permanence qui est erroné, qui est une illusion. Et aussi, une deuxième chose à regarder, quand on a de la souffrance, une mauvaise compréhension de notre identité. Ça, c'est aussi très important. Qu'on souffre parce qu'on projette sur notre moi, sur nous-mêmes, sur notre identité, quelque chose en plus, qui est exagéré, ou quelque chose auquel on croit et qui n'est pas forcément juste, hein, quelque chose qu'on voudrait ressentir et qu'on ne ressent pas, quelque chose dont on voudrait habiller le moi, peut-être, et qui n'arrive pas. Donc c'est lié à une compréhension de cette identité intrinsèque, de ce jeu intrinsèque aussi, qui voudrait finalement que le meilleur pour lui-même, quoi. Très égoïste. Voilà, ça fait beaucoup, hein. On va s'arrêter là. Réfléchissez, je vous enverrai quelques questions et puis ce que je peux. Je vous enverrai la méditation sur la vérité de la souffrance, qui résume justement les 8 souffrances comme un canevas que vous pourrez appliquer, sur lequel vous pourrez méditer. Ne méditez pas sur toutes les souffrances, hein, sinon vous allez plonger. Hein. Vous allez vous libérer du samsara, je sais pas, l'un ou l'autre. Soit vous allez revenir complètement déprimé, ou pas revenir du tout d'ailleurs, ou vous allez être libéré, je sais pas. Voyez, allez-y mollo quand même. Je vous enverrai tout ça et je vous enverrai qu'est-ce que vous vouliez. Ah oui, le plan aussi. Ok, bien écoutez, on va terminer, on va conclure cette week-end. Vraiment dédier toute l'énergie positive. C'est pas facile cet enseignement sur la vérité de la souffrance, mais complètement indispensable, et qu'on a fait beaucoup d'efforts justement pour essayer de le comprendre. Moi, de mon côté, de l'expliquer, alors que je suis loin de l'avoir réalisé, la vérité de la souffrance. Et voilà. Donc, si vous voulez bien prendre le livret pas doré, mais l'autre, là, les compilations de la prière de l'Institut, à la page 16. Pour les dédicaces finales, attendez, je vais les partager sur Internet. Si je le retrouve, compilation de prière, voilà. Oui. Si, si. Ouais. Je suis sur Zoom, là. Voilà, je partage. J'aurais au moins partagé quelque chose ce week-end. Il se plaint. Ah là là. Donc on pense vraiment qu'on a fait quand même pas mal d'efforts ce week-end de venir, d'écouter, c'est pas toujours clair, hein, d'avoir supporté certaines tensions, certaines difficultés, et que tout ça, donc justement, tous ces efforts qu'on vient de faire, on va les dédier donc à notre libération personnelle, mais en visant beaucoup plus loin qu'une libération personnelle, en pensant que ça nous amènera à mieux comprendre les souffrances des êtres et surtout à avoir les moyens d'éliminer leurs souffrances, puisque maintenant on n'a pas ces moyens-là, on n'en a pas suffisamment de développer des moyens, que seulement si on devient Bouddha, on aura vraiment tous les moyens à notre disposition pour pouvoir le faire. Donc c'est vers cet état de Bouddha qu'on doit aspirer, et c'est à ça qu'on va dédier ses mérites, sachant que ces mérites, si on les dédie, ils seront toujours dans notre continuum mental comme des causes qui forcément, à un moment donné, nous amèneront à cet état-là. Drogyo Ne Drogwa Chikyamalipan Te Yisalam Gyo Nam cho em bo che ma ge pa nam ge go chi ke pa nyam pa me pa yon go ne go do pe wa shu ton ye ta wa rim bo chi ma ge pa nam ge go chi ke pa nyam pa me pa yon gon e gon do pel wa shum. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'a bien épidémie, famine ou conflit. Que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur, grâce à la richesse du Dharma. Et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur, et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Et puissent toutes nos prières à nous aussi se réaliser immédiatement. Ok, bien voilà, merci beaucoup. À 17h pile, dis donc. Je ne vais pas déborder ce coup-ci. Donc, travaillez bien, réfléchissez bien et voilà, continuez votre progression, voilà, votre cheminement vers l'éveil, à votre rythme à tous. On se retrouvera donc le 16, le 9 et 10. Oui, le 9 et 10 pour la deuxième partie de cette série.
Pardon, Christian.
Samsara et Nirvana.
Christian.
Oui.
Tu peux rappeler les dates de retraite?
Les dates de retraite de quand?
Hier, tu as dit quelques dates de retraite. Non? Alors.
Ah, il y aura une retraite de l'Amrim en février, mais elle n'est pas forcément pour découverte du bouddhisme. Elle est plutôt pour le Pays-Bas. La retraite de découverte du bouddhisme, elle aura lieu en mois d'août. Et ça sera surtout sûrement les deux dernières semaines d'août. D'accord. En général, c'est comme ça.
D'accord, merci.
C'est bon ? Ouais. Salut. Merci. Au revoir, les filles.
Bien. Merci beaucoup.
Au revoir, Audrey. Au revoir, Marion. Au revoir, merci, tout le monde.
Christian. Merci, au revoir.